Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, une émission que vous pourrez podcaster pendant une semaine et réécouter pendant 500 jours, une émission spéciale aujourd'hui à l'occasion de la journée Solidarité Syrie qui se poursuit sur France Culture. Peut-on encore parler de cessez-le-feu aujourd'hui en Syrie? 5 jours après que celui-ci a été décrété, les violences, si elles ont baissé d'intensité, sont loin d'avoir disparu. Les derniers échos en provenance du pays faisaient encore état cet après-midi de bombardements par les troupes gouvernementales de plusieurs localités, et ce alors que les Syriens sont censés célébrer aujourd'hui leur fête nationale, une fête qui commémore chaque 17 avril l'indépendance du pays, c'était en 1946. Aujourd'hui, que reste-t-il de la nation syrienne? Des souvenirs et un maigre espoir entretenu ces jours-ci par la mission des observateurs de l'ONU, venue vérifier que le cessez-le-feu obtenu par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, que ce cessez-le-feu avait, malgré tout, quelque chance d'offrir ne serait-ce qu'un peu de répit à la population syrienne et au premier rang à celles et ceux qui ont choisi, au péril de leur vie, de s'opposer au régime de Bachar el-Assad. Selon les chiffres publiés par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 11 000 personnes ont trouvé la mort dans le pays depuis le début de la révolte, qu'il faudra peut-être un jour rebaptiser révolution. Les Syriens, aujourd'hui, en sont encore loin. Alors pour essayer de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, nous avons choisi de privilégier le récit d'un des rares témoins visuels de ce qu'il faut bien appeler une guerre, rare témoin non syrien s'entend. Ce soir, nous recevons donc l'écrivain et journaliste Jonathan Little. Jonathan Little, c'est évidemment l'auteur des Bienveillantes en 2006, un écrivain avant tout, mais de ces écrivains qui parcourent le monde pour en raconter les blessures. Little est un familier des zones de conflit, les Balkans, le Caucase, le Sud-Soudan et désormais la Syrie. Il y a passé une petite vingtaine de jours en début d'année, du 16 janvier au 2 février, pour le journal Le Monde. Il était à Homs, ville assiégée dans l'ouest du pays, pas très loin de la frontière avec le Liban. Et de ce séjour aux côtés des opposants au régime syrien, en compagnie du photographe Mani, Jonathan Little avait déjà tiré une série de 5 reportages publiés dans Le Monde à partir de la mi-février. En mai prochain, il publiera ses carnets de Homs chez Gallimard. Nous l'avons rencontré jeudi dernier chez son éditeur pour qu'il nous raconte ce que vivent les Syriens de Homs depuis de longs mois. S'agit-il d'une forme d'abattement? La réponse de Jonathan Little.
Abattement, je ne sais pas si c'est le terme juste, parce que, au contraire, les gens étaient très motivés pour continuer à résister les civils de manière pacifique, c'est-à-dire par le biais des manifestations quotidiennes, qui étaient vraiment un grand moment collectif chaque jour. Donc bien sûr fatigués, surtout frustrés et furieux de l'inattention du reste du monde, du fait de se sentir lâchés par la communauté internationale, de se sentir complètement impuissants face à l'armée syrienne qui continuait à les tuer tous les jours. Et donc, plutôt un certain désespoir qui est un peu le moteur de la phase de la lutte armée qui est en train de devenir de plus en plus intense en ce moment.
Est-ce que c'est ce désespoir, à votre avis, qui fait que, malgré tout, plus d'un an après le début de la révolte, les Syriens continuent de manifester, continuent de se battre contre ce régime? Parce que ça, c'est vrai que c'est ce qui étonne quand même, c'est cette capacité de résistance.
Ça, c'est pas le désespoir, c'est l'espoir. Je veux dire, ils croient vraiment qu'à la fin du compte, ils vont gagner. Et je suis d'ailleurs relativement certain qu'ils ont raison. C'est-à-dire que tant qu'ils ne lâchent pas, le régime ne peut pas réimposer sa chape de plomb comme elle existait avant le début des événements. Maintenant, on est clairement dans une dynamique de radicalisation de part et d'autre. Donc ça ne pour le moment, ne peut aller qu'en empirant. Mais je pense que le régime essaie de jouer la montre et la fatigue et l'abattement et le désespoir pour qu'à un moment ou un autre, les gens arrêtent et rentrent à la maison. Mais visiblement, les gens ne sont pas prêts à arrêter et rentrer à la maison.
Quand vous parlez d'espoir et de victoire, l'espoir, il porte sur quoi?
Est-ce que c'est... La chute du régime, c'est tout. C'est aussi simple que ça, maintenant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au début, ce n'était pas ça. J'ai parlé à pas mal de gens qui m'ont expliqué que Au début, ils sont allés manifester pas du tout pour la chute du régime, pas du tout pour la chute de Bachar. Ils voulaient des droits. Ils vivent dans un état de non-droit complet, dans un état de corruption totale où toute la vie économique est sous la mainmise des petits satrapes locaux du Bas. Il faut payer pour faire entrer ses gamins à l'école, il faut payer pour en faire entrer ses gamins à la fac, il faut payer pour tous les services soi-disant gratuits. Si on veut monter un business, il faut payer, payer, payer. Enfin, c'est une chape de plomb extrêmement étouffante, avec la mainmise des mouhabaras, des services secrets sur la vie quotidienne. Il faut des permissions pour se marier, on ne peut pas faire des études religieuses, on peut pas. Enfin, tout ça était très oppressant. Donc au début, quand les gens sont descendus la rue, c'était pour ça. Ils voulaient des droits. Ils voulaient que les petits sbires locaux du bas s'arrêtent de leur sucer le sang. Et Bachar, au lieu de réagir intelligemment et de faire ce qu'a pu faire un Mohamed VI au Maroc, c'est-à-dire négocier, lâcher du lest, au contraire, il s'est crispé et a commencé à tirer sur les foules. Donc à partir de là, on est rentré dans une dynamique de plus en plus négative et très rapidement, c'était plus des réformes, c'était la chute du régime. Et maintenant, aujourd'hui, c'est la chute du régime, un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre issue envisageable pour la population soulevée.
Sur cette question de la demande de véritables droits, j'ai relevé cette phrase justement dans une des premières pages hein, de vos carnets. Ce que vous écriviez donc à l'époque, c'était à peu près mi-janvier. Il rêve moins, en parlant de ceux qui se révoltaient contre le régime syrien, il rêve moins de démocratie, concept sans doute très vague pour eux, que d'un état de droit.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, parce que la démocratie, c'est très abstrait pour eux. Ils ne savent pas vraiment ce que ça représente. Enfin, bon, ils ont une idée théorique, mais c'est pas quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Alors que la notion d'un état de droit, c'est quand même quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'il y a des règles du jeu et qu'il y a un mécanisme impartial pour faire respecter les règles du jeu, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui connaît quelqu'un, il va toujours gagner dans un conflit contre quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un. Et très souvent, le quelqu'un qui connaît quelqu'un est alaouite, et celui qui n'en connaît pas est sunnite. Ça, c'est juste comme ça que ça s'est construit depuis 40 ans dans ce pays. Donc il y a effectivement ces aspects aussi communautaires qui jouent très fortement.
Même si vous racontiez dans vos reportages que les dirigeants de la rébellion syrienne faisaient extrêmement attention à ne pas porter le conflit sur des questions confessionnelles. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec le pourrissement de la situation, les bombardements extrêmement intensifs, qui ont d'ailleurs commencé peu de temps après votre départ de Homs, est-ce que là, le risque est véritablement réel d'avoir un conflit qui devient un conflit beaucoup plus confessionnel qu'il ne l'était au départ?
Oui, le risque est absolument certain. Maintenant, il faut prendre un pas en arrière. C'est-à-dire, tout le monde a constaté depuis le début des événements que la majorité des populations soulevées étaient sunnites. Donc, tout de suite, une grille de lecture confessionnelle s'est imposée. Ce que je pense qu'on n'a pas vu ou moins bien vu, c'est qu'en fait, la vraie dynamique du soulèvement au départ, elle est socio-économique. C'est surtout le prolétariat et la paysannerie qui se sont soulevés. Il se trouve, parce que le régime favorise depuis 40 ans la minorité alaouite ainsi que d'autres minorités, que la majorité du prolétariat urbain et de la paysannerie délaissée sont effectivement sunnites, puisqu'ils ont moins d'accès, moins d'avantages que. Les alaouites étaient très très pauvres comme communauté il y a 40 ans, c'était vraiment un sous-prolétariat, mais ils ont bénéficié d'énormément d'aides de l'État, de soutien, d'appui, d'accès à l'éducation, de. Beaucoup d'entre eux ont été drainés par l'armée. Homs est maintenant une ville avec une très importante communauté alaouite parce que Hafez al-Assad, le père, a fait venir tous ces gens en leur payant des logements, en leur donnant du travail pour alaouitiser un peu la ville. Donc dès le départ, alors que la dynamique est socio-économique, on se retrouve quand même dans un truc où effectivement il y a des questions confessionnelles. Communautaire plutôt que confessionnel. C'est le principe arabe de l'asabiyya, le groupe de solidarité, qui est un peu le fonctionnement naturel des gens. Tout le monde a son groupe de solidarité, qui peut être religieux, qui peut être culturel, qui peut être ethnique, dans le cas des Kurdes ou des Druzes, etc. Mais au niveau politique, les gens qui ont dirigé le soulèvement, je pense, avaient des idées très très claires que. Déjà, ils sont très imbus eux-mêmes de 40 ans de nationalisme syrien et d'un discours pan-arabiste et nationaliste du régime bassiste. Ils ont bu ça avec le lait de leur mère depuis qu'ils sont petits, donc ils y croient. Et donc, ils ont toujours insisté que le soulèvement n'était pas un soulèvement confessionnel, que c'était un soulèvement du peuple syrien opprimé contre ses oppresseurs. Et la réponse du régime, qui est la stratégie en fait du régime, est de confessionnaliser le conflit. C'est-à-dire que le régime a mis en œuvre une politique de provocation systématique pour essayer d'entraîner l'opposition dans un cycle de violence confessionnelle. Au stade où moi j'y étais, avec Mani, le photographe avec qui je travaillais, on a été témoin des premiers massacres vraiment, je dirais, ethniques. C'est-à-dire, on a publié dans Le Monde, je crois que c'était le 28 janvier, quand on était encore sur place, on a documenté un massacre d'une famille où les enfants avaient été égorgés, les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Une famille sunnite ?
Une famille sunnite qui vivait juste dans une zone limitrophe entre un quartier sunnite et un quartier alaouite. Et bon, des inconnus masqués sont venus les assassiner la nuit. Ils ont assassiné d'autres familles, mais on n'a pas eu accès aux cadavres parce que c'était dans une zone contrôlée par les Chabihas alaouites. Et ça, c'était clairement une tentative de provocation confessionnelle, qui, bien sûr, ils souhaitaient inviter une réponse du même genre. La réponse de l'armée syrienne libre a été dans la droite ligne de l'idéologie du soulèvement, c'est-à-dire qu'ils ont répondu en ciblant des cibles militaires. Ils n'ont pas répondu sur le même terrain que ce type de provocation. Donc ils ont attaqué des checkpoints, des barrages de l'armée, ils ont attaqué un bâtiment du Mukhabarat. Ça, c'est un exemple que j'ai donné dans mes articles et aussi dans le texte, là, de la manière dont l'opposition essaye de ne pas tomber dans le piège. Maintenant, chaque fois qu'il y a une provocation de ce genre, on a entendu parler de 64 hommes sunnites sortis des autobus à l'évacuation de Bab Hamra, exécutés dans des champs. On a entendu parler de beaucoup d'autres massacres dans cette zone très sensible qui s'appelle Karam el-Zaytoun, qui est juste à la limite des quartiers sunnites des quartiers alaouites. Donc les provocations continuent absolument incessamment. Et forcément, plus ils font ça, plus il y a des dérapages du côté de l'opposition. Déjà en janvier, l'armée libre n'arrivait plus à contrôler notamment les Bédouins, qui sont une communauté un peu à part en Syrie, de la masse sunnite générale, et qui ont une très forte tradition de vengeance de sang, profondément ancrée. L'armée libre a réussi à les contrôler jusqu'à peu près fin 2011, mais fin 2011, ils n'y arrivaient plus. Et donc les Chabihas venaient, ils enlevaient et violaient des femmes bédouines, ils assassinaient des femmes bédouines. On m'a raconté des cas très très précis que je raconte dans le livre. Femmes enceintes de 7 mois qui se prennent une balle dans la tête, des choses comme ça. Famille entière, enfin toutes les femmes d'une famille violées pendant des semaines, des choses assez atroces. Et là les bédouins, eux, ripostent contre des civils alaouites. Donc du coup ça enclenche la machine du cycle des vengeances. L'objectif pour le régime étant bien sûr de mettre l'ensemble de la communauté alaouite et auxiliairement les communautés chrétiennes, druzes et les autres minorités fermement dans son camp.
Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous avez rencontré par exemple dans les rangs de la rébellion ou de l'armée syrienne libre des alaouites ou des chrétiens ?
Oui, il y en a, mais à Homs très peu. Ailleurs, je ne sais pas. Il y en avait une poignée qui était là, on va dire pour des raisons individuelles. Les chrétiens, c'est encore autre chose. On peut parler des chrétiens aussi. Les alaouites, j'ai rencontré hier Fadwa Souleymane, l'actrice alaouite. J'ai logé au même endroit qu'elle à Homs, mais elle venait juste de partir à Zabadan, et donc on s'est pas vu là-bas.
Qui est un peu une des figures emblématiques, justement.
Voilà, oui, qui est une actrice alaouite assez emblématique du côté des intellectuels, on va dire, qui soutiennent l'opposition. Et elle expliquait que la communauté alaouite est elle-même extrêmement divisée. Il y a en fait des tribus à l'intérieur de la communauté alaouite globale, où certaines ont été favorisées depuis 40 ans par le régime, d'autres non, et donc certaines soutiennent le régime absolument, et d'autres non. Il y a des alaouites qui sont absolument contre le régime, des tribus entières en bloc, enfin, qui ne les aiment pas. Mais le régime essaie de jouer cette sur-solidarité en disant, vous les alaouites, vous êtes en péril maintenant, vous les chrétiens, vous êtes en péril maintenant, regardez. Je pense que c'est aussi le sens de la provocation qui a coûté la vie à Gilles Jacquet, juste quelques jours avant qu'on arrive, qui était de bombarder une manifestation pro-régime d'alaouites pour dire, regardez, l'armée libre tue des manifestants civils innocents. peut pas dire que c'est que nous qui faisons ça. Pour moi, c'est assez clairement une provocation du régime. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas convaincus, mais bon. Les chrétiens, on le sait, c'est évident et public explicite que les dirigeants chrétiens, c'est-à-dire les évêques, les figures religieuses des différentes confessions chrétiennes sont très fermement du côté du régime. Par contre, ça ne veut pas du tout dire que la masse chrétienne, elle, est du côté du régime. Elle est plutôt dans l'ensemble neutre et attentiste, à Homesville, et dans les campagnes, on a passé dans plusieurs villages chrétiens qui, eux, soutenaient secrètement l'armée libre. Ils ne se battent pas, mais ils cachent des combattants, ils cachent des blessés, ils donnent des safe houses pour des transbordements d'armement, de blessés, de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment les communautés entières, avec leur mortal, qui sont déjà du côté de l'opposition.
Alors revenons, si vous voulez bien, à mi-janvier, lorsque vous arrivez en Syrie. Vous arrivez depuis le Liban. D'abord, est-ce que c'était un pays où vous étiez déjà allé, ou c'était une première fois ?
Non, je suis allé en 2009 en Syrie, mais en vacances, en famille.
Donc là, vous y retournez dans un pays en guerre. Enfin, est-ce que c'est un pays en guerre que vous découvrez ? Est-ce que c'est la première image que vous avez, c'est-à-dire une zone de conflit ?
Bah, c'est moins visible dans les 30 bornes entre la frontière et Homs. Il y avait des hommes armés partout. Ils nous parlaient de combat, on n'en a pas vu. Mais parce qu'on est passé dans une période qui, à Qusair, était relativement tranquille. Ça avait été pas tranquille du tout juste avant, et c'est redevenu pas tranquille du tout juste après. Mais par contre, dès qu'on arrive à Homs, on est effectivement en pleine guerre. Là, on a vécu très près de la ligne de front, on a passé des journées, une journée notamment avec des combats assez intenses sur le front. Il y a un vrai front stable, installé, qui n'existe plus maintenant que Babar est tombé, mais qui était bien installé à l'époque. Donc c'était vraiment des situations de conflit classiques, quoi, des gens qui se tirent dessus de part et d'autre d'une ligne de front.
Baba Amar, que vous évoquez, c'est un des quartiers de Homs, qui était un quartier libéré par l'armée syrienne libre.
Voilà, c'est un quartier périphérique, prolétaire, très pauvre, donc tout à fait le genre de terreau de la résistance, et qui effectivement avait été, je pense que le dernier checkpoint de l'armée à l'intérieur de Baba Amar a été dégagé fin décembre, donc c'était considéré entre guillemets comme un quartier libéré.
Totalement abandonné par les autorités syriennes, c'est-à-dire le moindre service public disparaît.
Les services publics, ils avaient disparu depuis longtemps, parce que depuis le début du soulèvement, on punit les quartiers soulevés en coupant les services publics. Donc il n'y a pas de ramassage de poubelles depuis un an dans les quartiers de l'opposition. L'accès aux soins, il est non existant en dehors des cliniques clandestines que l'opposition peut mettre en place. Quelqu'un de Baba Amra qui essayerait de se pointer à l'hôpital national finirait dans une geôle torturée.
C'est-à-dire le simple fait de venir de ce quartier, c'est se mettre en danger de mort lorsqu'on en sort.
Absolument, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de cas que j'ai pu documenter, de gens qui ont été tués uniquement parce que leur adresse était Baba Amra, qui allaient ailleurs en ville pour essayer d'acheter du gaz, qui allaient pour essayer de trouver des médicaments, qui allaient pour toutes les raisons pour lesquelles on peut se promener dans une ville, quoi. Tombe dans un barrage, bing.
Moi, ce qui me surprend toujours lorsqu'on évoque ce conflit, c'est d'essayer de comprendre comment cette armée syrienne libre peut fonctionner, c'est-à-dire avec qui. Or, quand on lit vos reportages, on se rend compte qu'il y a énormément de militaires qui ont déserté parce qu'ils n'en pouvaient plus, finalement, de devoir assurer et assumer surtout ce que leur demandait le régime, c'est-à-dire des massacres de la population.
L'armée syrienne libre est une armée de déserteurs de l'armée régulière, 95%. Il y a une poignée de civils qui se sont engagés dans l'armée syrienne libre, qui ont pris les armes, qui sont certainement des ex-militaires. C'est un pays où le service est obligatoire, donc tout le monde a fait son service à un moment ou à un autre. Mais c'est essentiellement une armée de déserteurs, oui. Des officiers, des soldats qui ont fui et qui ont pris leurs armes avec eux pour essayer de protéger la population. C'est-à-dire la première mission de l'armée syrienne libre. Un officier que j'ai rencontré qui s'appelle Abdelrazak Tlas, qui a dit très nettement, il a dit le devoir de l'armée, c'est de protéger le peuple. Ça, c'est la première mission d'une armée nationale. Or, ici, l'armée tire sur le peuple. Nous, on n'est pas d'accord, donc On fait une autre armée qui, elle, accomplira ce qui est la véritable mission de l'armée, qui est de protéger le peuple.
Lorsqu'on parlait de la révolution en Égypte, il était beaucoup dit que autant les Égyptiens détestaient leur police, autant ils le vénéraient presque leur armée. Est-ce que les Syriens, avant que ne démarre cette répression, aimaient leur armée? Est-ce que c'était une institution, en tout cas, qui était reconnue, respectée?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que les dynamiques sont très différentes en Syrie d'en Égypte. Le régime Baas a vécu depuis 40 ans sur toute une série de mythes, construits, soutenus par la propagande, inculqués aux enfants dès leur plus jeune âge. Donc un de ces mythes est bien sûr la résistance à Israël. La Syrie porte étendard de la résistance arabe au régime sioniste, ça, c'est un des grands mythes bassistes. La réalité, c'est qu'ils ont perdu le Golan et qu'ils ont laissé faire, et que depuis, leur résistance à Israël, c'est surtout en parole. À part le soutien, bien sûr, à Hezbollah et au Hamas à une époque, il n'y a pas eu d'action concrète de l'armée syrienne contre Israël depuis la guerre de 67. Si, en 73, bon, mais depuis 73, on va dire. Donc, les gens ne sont quand même pas complètement idiots. Pas plus en Syrie qu'ailleurs, et je pense que beaucoup de gens ont bien compris ça, qu'il y avait une grande part là-dedans. Et donc les gens à qui j'ai parlé étaient assez critiques de l'armée nationale. Je ne parle pas du côté exaction, mais même de ce qu'était l'armée avant. C'est l'image qu'on m'en a donnée, de gens qui venaient de l'intérieur de l'armée. C'était une armée corrompue profondément, une armée où les gens qui ont des moyens peuvent s'acheter la permission de ne pas y aller, envoyer un pauvre à la place. Une armée où les officiers font tout pour capter des richesses et se servent des hommes de la troupe comme de quasi-esclaves. Donc je pense que l'image de l'armée dans la société n'était pas très noble, on va dire. Et en plus, une armée extrêmement violente et abusive depuis un an dans ce qu'elle fait subir à la population.
Alors, parmi les militaire de cette armée que vous avez rencontré, il y a un ancien officier de l'armée régulière, qui est le lieutenant Abdelrazak Atlas, voilà, qui revendique lui être le premier officier syrien à avoir déserté, qui fait partie d'une grande famille de militaires. Et dans les conversations que vous avez avec lui, il vous dit que si la situation n'évolue pas, l'armée, l'ASL, risque de se transformer en une organisation comme Al-Qaïda.
Il n'a pas dit comme ça. Il a dit que ce qu'il a dit, c'est que si ça continuait à dégénérer et qu'il n'y avait aucun soutien de l'extérieur, aucune intervention extérieure, qu'ils allaient déclarer le djihad pour faire venir des combattants du monde arabe entier et surtout mettre la pression. C'est le discours qu'il m'a tenu. C'était la déclaration du djihad servirait à mettre la pression sur l'Occident pour obliger l'Occident à intervenir plutôt que de voir la Syrie sombrer dans un chaos à l'irakienne. Nous, bien sûr, on a essayé d'expliquer que c'était une vision très naïve des choses et que ce n'est pas parce qu'il déclarait le djihad que l'Occident se bougerait plus qu'il ne se bouge actuellement. Mais bon, ces propos-là, on les a entendus de la part de beaucoup d'officiers. C'était, je pense, une façon de voir les choses assez répandue dans l'armée libre. Mais comme je précise dans le reportage, je pense que c'est important de souligner que c'était pas du tout, ça venait pas d'un fondamentalisme islamique, d'un quelconque fanatisme. C'était une idée tactique, on va dire. Bête, mais pensée quand même du point de vue tactique et politique. Après, apparemment, ils ont essayé de le faire, j'ai entendu dire, mais ça a été un espèce de pétard mouillé, ça n'a pas vraiment pris. Heureusement d'ailleurs, parce que ça ne ferait qu'empirer la situation. Maintenant, après, on ne sait pas trop, les Américains sont convaincus qu'il y a déjà des combattants étrangers au sein de l'armée libre.
Moi, vous en avez vu, vous ?
Moi, je n'en ai pas vu, non. Non. J'en ai pas vu, et l'armée libre, elle est tellement locale, c'est-à-dire que les soldats, en fait, quand ils désertent, ils rentrent chez eux, ils se battent chez eux. Donc, ce n'est pas une armée libre, c'est des petites unités de quartier, de copains qui se connaissent d'avant de service et qui reviennent dans leur quartier. Et l'officier, c'est un mec du quartier. Et donc déjà, au sein d'une unité, quand il y a un mec qui n'est même pas du quartier, quand il y a un mec qui n'est pas de la ville, il se détache tout de suite. On le sait en à peu près 2 minutes. Je pense que s'il y avait eu des étrangers qui n'étaient même assez rien là-dedans, on les aurait remarqués assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça doit être assez localisé, je pense, encore.
Vous nous disiez tout à l'heure, Jonathan Little, que vous a raconté un certain nombre d'exactions commises par l'armée. Vous avez, vous aussi, été le témoin de ces exactions, au moins à travers des images, puisque ce qui est assez remarquable, entre guillemets, c'est qu'il y a de nombreux témoignages qui sont pris, notamment via les téléphones portables, soit des photos, soit des films qui montrent
des personnes torturées. C'est pas que les téléphones, ils ont des petites caméras. Les activistes ont des petites caméras vidéo. C'est pas que de l'amateurisme pur, c'est ça que je veux dire. Il y a un certain matériel déjà.
Ils le font pourquoi, en fait? Est-ce que c'est pour avoir une efficacité immédiate? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour essayer d'alerter alors les puissances occidentales, hein, pour utiliser une formule un petit peu rapide sur ce qui se passe actuellement? Ou est-ce que c'est pour garder des témoignages pour après?
C'est les deux, bien sûr, mais l'intention de l'efficacité immédiate prime, évidemment. C'est un phénomène absolument passionnant, ces vidéos d'atrocités sur YouTube. C'est passionnant parce que c'est une forme d'image qui est assez inédite. En fait, il y a un côté quasiment pornographique dans la façon dont les images sont tournées. C'est une espèce d'attardement sur la blessure, sur le corps, qui a un régime d'image tout à fait assez inédit, complètement non existant dans le journalisme traditionnel, puisqu'au contraire, on fait tout pour éviter de montrer les gens sans mâchoire, les gros trous, les tripes qui dégoulinent, tout ce qu'on ne le montre pas. Eux, ils le montrent. Très souvent, dans la méthodologie qu'ils emploient, il y a des figures connues d'activistes qui se mettent devant la caméra et qui expliquent ce qu'on voit à l'image. Donc, ils vont montrer le mort ou le blessé, et ensuite, l'activiste expliquera les circonstances. On est tel jour, on est telle heure, on est à tel endroit, et voilà ce qui se passe. Et ensuite, tous les jours, dans toute la ville et dans toutes les villes de Syrie, des centaines de films sont produits et traités et mis en ligne, disséminés par les réseaux sociaux, pour bien sûr montrer ce qui se passe. C'est-à-dire, on est aussi dans un conflit où il n'y a pas de journalistes, à de très rares exceptions. Je pense que les Occidentaux qui sont rentrés en Syrie, on doit être quelques dizaines, pas plus, pour des périodes assez courtes. Une poignée de gens qui ont pu avoir des visas, qui ont pu faire des petites choses du côté officiel, mais c'est tout, il y a très très peu. Donc pour eux, c'est une façon de briser la chape de plomb et de témoigner dans l'immédiat de ce qui se passe. Après, je pense qu'il y a eu... Vous avez dit, pour les médias occidentaux, il ne faut pas oublier les médias arabes. Pour les révolutionnaires syriens, c'est extrêmement important aussi l'impact qu'ils ont dans les autres pays arabes, qui est en fait beaucoup plus fort que chez nous. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu très longtemps un certain mépris de ces activistes. Enfin, un mépris... les médias traditionnels occidentaux les ont méprisés en termes de la valeur de ce qu'ils produisaient.
Voilà, peut-être un doute sur l'origine de ces images.
Oui, mais en fait, on n'a pas voulu faire le travail qu'il fallait pour les authentifier, alors que c'est un travail qu'Al Jazeera fait depuis des mois et des mois et des mois. C'est pas très compliqué de se mettre en relation par Skype ou par téléphone avec ces gens, de commencer à les connaître même à distance, de discuter avec eux quotidiennement, de parler face à face via Skype à une caméra. Et une fois qu'on connaît la personne, il fonctionne comme un stringer traditionnel. C'est-à-dire, une fois qu'on a authentifié un ou deux de ces films, qu'on peut faire confiance à la personne, que le matériel qui est produit est relativement authentique, ensuite, on a un humain qu'on connaît derrière la vidéo brute. Effectivement, une vidéo brute qui est balancée sans auteur, anonymement sur YouTube, n'a pas une énorme valeur, parce qu'elle peut être, elle aurait pu être filmée n'importe où, n'importe quand. Mais quand vous avez un Omar Telaoui, un Ali Othman qui vient d'être arrêté, ou des gens comme ça qu'on connaît, et qui vous disent « moi j'ai filmé ça, j'ai vu ça, et voilà le film », c'est un témoignage qui a la même valeur que n'importe quel autre. Là, maintenant, depuis, je pense que certains médias occidentaux se sont un peu réveillés, notamment depuis l'épopée des journalistes occidentaux blessés, parce qu'ils ont été
Et
beaucoup...
Couvier, William voilà, Daniels, notamment.
Ils ont beaucoup été aidés par ces gens-là, et donc on a commencé à prendre conscience que qui étaient ces gens, qu'ils existaient, et donc les médias ici commencent à travailler avec eux de plus en plus. Mais on retrouve encore dans quasiment toutes les dépêches de presse des phrases du genre « on ne peut pas authentifier ces informations parce qu'il n'y a pas de journalistes en Syrie ». Que je trouve, moi, je pense qu'on ne devrait pas dire ça. On devrait travailler avec les journalistes locaux, comme on le fait dans d'ailleurs beaucoup d'autres conflits. Parce que, je veux dire, Somalie, il n'y a pas plus de journalistes occidentaux. On travaille avec des stringers locaux. Mais c'est juste, c'est des gens qu'on connaît. On sait qui ils sont. On connaît la valeur du matériel qu'ils amènent. C'est un peu le même principe ici. Et Al Jazeera et les grands médias arabes cultivent ces gens depuis des mois et des mois et des mois. Ils exploitent beaucoup, beaucoup plus le matériel qu'ils produisent.
Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle, dans ce que vous avez raconté dans ces reportages, on a l'impression vraiment que vous ne dissimulez absolument rien de ce que vous avez vu, c'est-à-dire pour appuyer ces témoignages-là, c'est-à-dire pour leur donner presque encore davantage de crédibilité. Vous ne vous êtes absolument pas censuré en disant « ça peut être, je vais aller trop loin dans l'horreur, dans le... »
Écoutez, ça, c'est même pas une considération. Je veux dire, on va à un endroit comme Homs, on va pour témoigner sur ce qui se passe, donc on raconte ce qui se passe. Là où c'est plus délicat, c'est quand on rentre dans des questions... Par exemple, quand on rentre dans la question des exactions commises par l'armée libre, qui peuvent nuire politiquement, effectivement, si on raconte ça à l'armée libre. Ça, c'est un problème avec les activistes locaux, qui sont clairement des activistes et non pas des journalistes. Donc, eux ne vont pas témoigner d'exactions commises par leur camp, c'est bien sûr. Mais là, on rentre dans une dimension qui est vraiment une politique. Un journaliste occidental, s'il est de bonne foi et qu'il est honnête, s'il voit quelque chose qui n'est pas très cachère du côté de l'opposition à la révolution, il va le raconter. Donc, Mani a montré dans ses photos, en novembre, il avait pris des photos d'un prisonnier torturé par l'armée libre, il les a montrées. Curieusement, les rédactions n'ont pas voulu d'ailleurs, mais il a pris des photos, il les a montrées. Il a documenté des choses en vidéo qui étaient, bon, des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu. Moi, on a vu un Chabiha lâché par l'armée libre, vraiment lâché. Bon,
un Chabiha, il faut nous redire ce que...
Un Chabiha, oui, c'est un milicien pro-régime, un espèce de gangster payé par le régime pour faire ses bases œuvres en marge de l'armée. Donc vraiment les pires des pires, quoi. Mais celui-là était tombé un jour de massacre particulièrement intense. Il était tombé, je ne sais pas comment, dans les mains de l'armée libre et ils l'ont lâché. Ils ont éclaté la tête à coups de crosse. C'était extrêmement violent. Donc on le dit parce que c'est ce qui se passe. Puis voilà. Après, bon, les susceptibilités des spectateurs. Moi, je ne travaille pas pour la télé, donc ce n'est pas tellement mon problème.
Justement, vous disiez, un journaliste occidental, s'il est honnête, il ne va rien cacher. Vous êtes d'abord écrivain. Alors, est-ce que ça change le point?
Il faut préciser, quand on dit rien cacher, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui nous ont aidés à rentrer dans ce pays clandestinement, qui nous ont protégés, à qui on doit la vie. Et là, par contre, il y a des choses qu'on doit cacher, parce que ça fait partie de leur clandestinité. J'étais extrêmement choqué, par exemple, quand Libération a révélé l'existence du tunnel, que moi je connaissais depuis des semaines. Et bon, je ne pense pas que c'est cette révélation-là qui a fait que le tunnel a finalement été bombardé et fermé.
Le tunnel qui a permis d'évacuer certains journalistes.
Voilà, mais ils n'auraient pas dû en parler, pas à ce moment-là. Ça, on en parle plus tard, une fois que ce n'est plus d'actualité. Donc moi, bien sûr, j'ai caché des choses. Même dans le livre, je n'ai pas mis tous les détails sur comment on a passé la frontière, comment on est rentré dans Homs. Fait partie de la clandestinité, et ça c'est un peu normal de respecter la sécurité des gens qui nous ont aidés.
Vous êtes d'abord écrivain, est-ce que ça vous donne une liberté différente dans la façon dont vous relatez les faits tels que vous les vivez, ou ça change absolument rien?
Je ne pense pas, parce que je pense que mon écrivain ça veut rien dire.
Journaliste, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire respecter un certain nombre de règles. Donc, est-ce que vous y allez j'y vais comme journaliste?
Bien sûr. Enfin, j'étais envoyé par Le Monde. J'étais envoyé spécial du Monde. Les articles étaient signés envoyés spéciaux à Homs, Mani, Jonathan Little. Bon. Donc là, bien sûr, on est dans un cadre extrêmement précis. Et mes articles rentrent dans ce cadre, je pense. Ce n'est pas des articles d'opinion. C'est des articles très factuels. Voilà, il se passe ça. J'ai effectivement fini mon dernier article avec une opinion. Bon, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut.
Alors j'aimerais justement qu'on revienne sur les toutes dernières phrases de votre dernier article. Je vais citer brièvement. « L'Occident et la Ligue arabe impuissants face aux veto russes et chinois parlent de casques bleus, de couloirs humanitaires. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Entre 1993 et 1995, quand j'étais en Bosnie, plus de 80 000 personnes sont mortes sous les yeux des journalistes et des humanitaires du monde entier et de casques bleus dont le mandat ne permettait de tirer que sur les chiens enragés. Si on n'a rien de mieux à proposer aux Syriens, autant les abandonner à leur sort, ce serait plus honnête. » On vient tout juste de commémorer le 20e anniversaire du début du siège de Sarajevo. Est-ce que vous avez eu l'impression, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on revit, comparaison n'est pas raison évidemment, mais qu'on revit un peu la même chose qu'il y a 20 ans en Syrie?
Comme je l'ai dit là, ça rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Bien sûr, ce n'est pas pareil, mais l'impuissance occidentale, elle est évidente. Enfin, et puis les Occidentaux eux-mêmes le reconnaissent. Monsieur Juppé, il dit qu'il est assez désespéré, mais ils n'arrivent pas à peser assez lourd pour faire bouger les choses. Bon, je pense que le plan Annan, bien sûr, c'est mieux que rien, mais c'est quand même des foutaises. Donc, ça n'a pas donné grand-chose. Enfin, ça a peut-être donné un petit répit temporaire pour que les uns et les autres se réorganisent, je ne sais pas quoi. Donc oui, la grande différence, c'est qu'en Bosnie, on a gelé le conflit. C'est-à-dire qu'on a empêché les armes d'arriver aux Bosniaques et on a mis plein de casques bleus partout pour être sûr que les Bosniaques ne pourraient pas s'armer. Donc on a contribué activement, je dirais, au pourrissement de la situation. En Syrie, il n'y a pas de troupes étrangères, donc on contribue, si on y contribue, passivement. On ne fait rien, c'est tout. Déjà, c'est un élément de différence qui est quand même assez considérable. Après, il y a la grande tentation des politiciens qui savent qu'ils ne peuvent rien faire, d'essayer de trouver des idées fumeuses pour déguiser leur impuissance. Donc, tous ces discours sur, oui, on va faire des corridors humanitaires, les casques bleus, les machins, c'est de la rigolade. Je veux dire, quand on voit la persécution des cliniques, des médecins, des blessés par les services syriens, parler d'amener de l'aide médicale aux Syriens, ça ne sert à rien. Il y a des médecins qui ont écrit une tribune dans Le Monde il y a quelques semaines demandant à ce que la France accueille des blessés lourds syriens aux frais de l'État français. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que moi, ça, c'était quelque chose de très concret, avec des gens concrets qui ont vraiment besoin de soins. Donc j'essaie de relier cette idée auprès de différentes instances politiques, et pour le moment, la réponse, c'est on n'a pas d'argent, et désolé. Bon. Mais effectivement, si la France voulait faire quelque chose de concret, de matériel, en soutien aux victimes syriennes, ce serait une très bonne idée de prendre 50, 70, 80, 100, 200 blessés lourds et de leur offrir des chirurgies reconstructives en France, qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs.
C'est d'abord ce qu'attendent les Syriens aujourd'hui, c'est ça? C'est des gestes concrets?
Oui, bien sûr, oui, ils veulent, oui, oui, ils veulent pas des paroles, ils veulent du concret. Alors eux, bien sûr, ils préféraient les armes lourdes, les frappes de l'OTAN. Enfin, aujourd'hui, ils appellent à ça, mais ils ne l'auront pas. Mais en attendant, quitte à ne rien faire et faire quelque chose, je pense que bien sûr qu'ils préféraient un soutien concret.
Voilà, Jonathan Little enregistré jeudi dernier dans les locaux de son éditeur à Paris, son éditeur Gallimard, qui publiera fin mai ses carnets de Homs. Vous pouvez par ailleurs lire un autre des reportages de l'écrivain dans la revue 21 de ce trimestre, reportage dans la ville mexicaine de Ciudad Juárez, réputée pour son taux vertigineux de criminalité. Ainsi s'achève ce grain à moudre exceptionnel, mais la journée Solidarité Syrie se poursuit dans un instant sur France Culture. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe du Grain, Julie Gacon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Géraldine Amblard-Augustinus, notre stagiaire c'est Mélodie Lucchesi, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique ce soir il y avait Arthur Gerbeau et Jean Frédérics. Alors on se retrouve demain à 18h20 pour le Club des Observateurs et tout de suite c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.